Good Morning Business, le débrief de la matinale.
8h37 sur BFM Business et sur AMC Découverte, le débrief avec Mathieu Pechberti, Emmanuel Le Chypre et François Mickey Marty. La Banque de France avait des prévisions de croissance plutôt intéressantes pour le pays jusqu'à ce que tout change il y a quelques jours. Quand on regarde dans le détail, eh bien en fait la confirmation de la prévision de croissance, l'emploi resterait mieux que prévu. Alors même si Emmanuel Le Chypre nous a dit qu'on peut mettre tout ça à la poubelle, Léo Dumas, qu'est-ce qui était prévu?
Alors dans un premier temps, la Banque de France anticipe une croissance très modérée, entre 0 et 0,1% pour le deuxième trimestre de cette année, puis sur l'ensemble de 2024, l'activité progresserait de 0,8%. La reprise serait ensuite beaucoup plus franche, 1,2% en 2025, puis 1,6% l'année suivante, une reprise qui est portée par la baisse des taux à mesure que l'inflation continuerait de décélérer. Là-dessus, la Banque de France est plutôt confiante. Elle prévoit un retour durable sous les 2% dès 2025 et sur l'emploi. Enfin, il devrait à terme suivre cette tendance générale. Après une hausse prévue jusqu'à 8% en fin d'année prochaine, la Banque de France s'attend à 7,6% de chômage dès 2026.
Alors depuis, l'OAT est au niveau du 10 ans portugais, donc ça a un petit peu changé la situation. On prend tout ça à poubelle, Emmanuel ?
Bah oui, parce qu'on voit bien qu'on est sur des ordres de grandeur et des dynamiques qui sont faibles, donc sur une économie fragile. Or, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Il faut bien voir qu'on avait quand même une certaine lisibilité sur la trajectoire de l'économie française. On avait 2-3 ans où on savait qu'on allait avoir à peu près 1% de croissance, une trajectoire de réduction des déficits publics, tant bien que mal, un chômage à peu près stabilisé, 6%, une fiscalité qui n'allait pas augmenter. Et là, effectivement, on se retrouve dans une situation d'incertitude totale, puisque si vous prenez la multiplicité des combinaisons politiques qui peuvent sortir de ces élections, vous pouvez vous retrouver dans des cas de politique fiscale extrêmement différents, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il n'y a pas que le gouvernement qui va gérer les affaires courantes. Les Français, ils vont le faire. C'est-à-dire, quand vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez vous prendre comme impôt sur la tête...
C'est le taux d'épargne va encore exploser.
Moi, je pense que oui. C'est-à-dire qu'on va avoir un attentisme généralisé de la part des ménages, de la part des chefs d'entreprise qui vont tous différer des décisions d'achat importants, que ce soit de l'investissement, que ce soit changer de voiture, que ce soit changer de logement. Donc, ça va coûter. Et après, on va avoir, à partir de cette onde de choc qui est la dissolution, on va avoir une séquence de répliques qu'il va falloir interpréter. La première, ça a été donc la dissolution, ça crée de l'incertitude. On n'aime pas, les marchés n'aiment pas, etc. Le deuxième temps, pour avoir commencé à faire le tour des agences de notation, des fonds de pension, des choses, etc. C'est-à-dire que les gens qui ne votent pas avec un bulletin de vote, mais qui votent avec leur argent en France, le deuxième temps, c'est... Donc, on nous parle du RN... parce qu'ils connaissent pas bien la vie politique française, hein, tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme du RM? Alors là, ils découvrent le programme du RM avec des dépenses publiques en veux-tu, en voilà, et en face...
Et des baisses de recettes.
Pas beaucoup de recettes. Donc il y a un trou de 100 milliards d'euros par an qui commence à les inquiéter. Ça, c'est ce qu'on voit sur la réaction des OAT, etc. Après, vous allez avoir la campagne avec les propositions. Après, vous allez avoir l'onde de choc de l'élection elle-même. Est-ce qu'il va sortir une majorité, déjà, de cette élection? Ça, c'est ce que disait François tout à l'heure. Et là, si ça sort pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, vous voyez bien que vous avez déjà, en fonction de ce qu'il y a dans le programme du RN, des impacts assez forts sur la bourse, sur les entreprises de l'énergie, sur les entreprises banques. De l'audiovisuel, sur les banques, etc. Et que vous allez avoir ensuite l'élection, donc, majorité par majorité, et qu'après, vous aurez la dernière vague de l'onde de choc, mais qui à long terme peut être mortifère, et ça impacte les prévisions à moyen long terme, c'est qu'est-ce que vont décider les gens qui investissent durablement en France. Là déjà, je peux vous assurer que... tout un tas d'investissements qui étaient prévus sur Marseille, par exemple, avec des grands fonds anglo-saxons.
Tout le Choose France qu'on a fait il y a 3 semaines.
Je peux vous dire que c'est des dizaines de millions, voire quelques milliards d'euros. Et là, déjà, je peux vous dire qu'on a croisé des élus de Provence, Alpes-Côte d'Azur, ce matin, dans les couloirs de BFM, qui nous disent, ce grand fonds américain m'a téléphoné, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bazar? Je devais venir en juillet pour prendre des décisions, etc. On ne viendra pas, on attend, etc.
Et Mathieu?
Il va y avoir effectivement une secousse de court terme jusqu'en septembre pour tous ces investisseurs, à la fois sur les marchés et ceux qui vont investir véritablement en France, le temps que les élections, la future majorité peut-être soit formée, le nouveau gouvernement, enfin tout ça c'est septembre. Et on va tout de suite débouler sur le budget. Et alors là, le budget 2025, moi je jette les pièces en l'air et je ne sais pas ce qui retombe. Parce que déjà, le gouvernement actuel, qui était plutôt dans une dynamique, on fait à peu près attention, même si.
Mais là, c'est la campagne.
Pour Emmanuel.
Là, c'est le...
Et donc, ça va se lâcher
c'est
dans tous
promesses...
les sens, mais évidemment. Mais c'est ça le problème. Ce qui va y avoir une sorte d'enchère, de course à l'échalote sur on va redépenser. Et alors là.
Bruno Le Maire a déjà promis une baisse sur la facture d'électricité.
Oui,
hier.
Alors,
regardez tous
après,
les sujets voilà. énergétiques. François, Mickey Marty, là, il y a une inquiétude. Pourtant, les Français ont voté. Ils l'ont voulu. Cette dissolution, elle est plutôt approuvée quand on pose la question.
En effet, la dissolution en elle-même est approuvée entre 60 et 66% des Français.
Quand même.
Mais elle est approuvée, comment dire ? C'est du dégagisme, d'une certaine manière. On est content de sortir les sortants, bon, ce qui n'est pas très constructif. Mais enfin, ça fait longtemps, hein, c'est pas nouveau qu'on approuverait une dissolution. Bon, voilà. Non, en effet, alors, la vie auparavant était relativement simple parce que la baisse des taux directeurs était un critère fondamental sur lequel
on voyait où on allait.
Bon, puis en effet, il y a les questions, il va y avoir les questions, bien entendu, de réforme, le nouveau cadre réglementaire fiscal. Quelle que soit la majorité qui va changer la donne. Et puis, en effet, le moral économique, c'est le troisième élément qui devient prépondérant. C'est-à-dire que là, on a fait le court terme pendant tout l'été. Est-ce que ça crée du moral économique ? Il faut quand même se dire qu'en dépit des bons chiffres que vous rappelez concernant la Banque de France, le moral économique dominant n'était pas folichon avant ces élections. On avait quand même 58% des Français qui estimaient que le chômage allait augmenter. On n'est pas sur une période d'euphorie économique, loin s'en faut. Donc, quand vous êtes plutôt dans une période d'atermoiement et que vous avez des incertitudes, le moral économique, pour une partie, en effet, des investisseurs, bien entendu, pour une partie des salariés, taux de motivation aujourd'hui des cadres, des équipes des cadres, telles qu'ils les déclarent dans notre baromètre HEC, BFM Business, Via Voice, ça tourne autour de 45-50% avant l'élection. Donc, on est dans un moment de fragilité. Donc, vous ajoutez à ça des turbulences. Le moral économique, alors, sans vouloir être extrêmement pessimiste, mais enfin, quand même, le moral économique peut être considérablement ébranlé.
Un mot de l'OAT français, enfin de l'OAT, le taux à 10 ans français, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, Emmanuel Le Chypre. Donc on est au niveau du Portugal. Wilfried Galland, qui participe à l'émission par texto, qui est là sans être là, nous dit qu'à partir de 4%, quand on est sur l'OAT, on commence sérieusement à stresser sur la soutenabilité de la dette. Jusqu'à quel point c'est l'OAT qui décide de notre politique française, de nos choix ?
Ça n'est que l'OAT qui va décider. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement... Alors, parce qu'il y a plusieurs parallèles un peu historiques qui sont faits. Le dernier vrai parallèle qu'on pourrait faire, parce qu'il y a aussi des points communs entre les programmes du Rassemblement National et le programme donc, qui était celui de Liz Truss au Royaume-Uni, et qui proposait des baisses massives d'impôts, parce que dans le programme du RN, on rase gratis sur plein.
Elle a sauté en 3 jours.
Voilà, elle a sauté, elle avait promis de prendre à son compte les factures d'électricité, des PME, etc., etc. Elle a sauté en 3 jours parce que les taux ont flambé, la livre s'est effondrée, la Banque d'Angleterre est intervenue. Il y a un risque qui est moindre chez nous, c'est le risque de change, puisqu'on est protégé quand même par l'euro, donc on peut s'attendre qu'il y ait peut-être la France qui tire un peu l'euro vers le bas, ça c'est possible, mais il n'y aura pas de danger sur l'euro, et donc la variable qui effectivement par laquelle va s'exprimer la défiance vis-à-vis de la France, c'est un peu la bourse, mais c'est surtout effectivement les OAT, les taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire si on considère que la dette n'est plus soutenable, où il y a trop d'incertitudes, et ben effectivement, oui, c'est la variable qui va donner les marges de manœuvre ou pas au prochain gouvernement.
4% gros stress, 100 BP d'écart avec l'Allemagne, ça commence sérieusement à tanguer, c'est ce que nous dit Wilfried Galland. On va parler de l'énergie avant que vous nous parliez du programme économique énergétique du RN. François Mickey Marty, ce sujet de l'électricité est devenu central dans la campagne.
Oui, il est central parce que le pouvoir d'achat est la question prioritaire et parce que dans le pouvoir d'achat, bien entendu, la progression des prix de l'électricité, pour les entreprises comme pour les ménages d'ailleurs, devient essentielle. Alors, quelques chiffres qui quand même font beaucoup réfléchir. C'est l'IFOP qui a fait un sondage assez récemment sur les prix de l'électricité et l'impact attendu sur le budget des ménages. Bon, les gens aisés considèrent que l'augmentation du prix de l'électricité est très handicapante pour leur pouvoir d'achat à 16%. Les gens modestes à 61%. 16%, 61%. Et tenons-nous bien, en termes politiques, parce qu'il y a dans les détails aussi des distributions politiques de tout ça, 50% des sympathisants RN considèrent que le prix de l'électricité est une question fondamentale pour leur budget, 20% des sympathisants Renaissance. Autrement dit, on voit la question de l'électricité, ça n'est pas qu'une question littéraire, c'est une question réelle, et il y a des clivages sociaux et politiques qui sont extrêmement importants. Donc, on comprend d'une certaine manière que M. Bardella parle de ces sujets-là, c'est une réalité économique, et c'est une réalité d'opinion et politique aussi.
Mathieu, Bruno Le Maire promettait hier 10 à 15% de baisse sur la facture en février 2025, le RN promet 40% de baisse sur la facture. Comment on fait ça ?
Alors d'abord, la baisse de 10 à 15% que Bruno Le Maire a annoncée hier était entre guillemets déjà dans les cartons. Donc c'est un bel effet d'annonce et ce sera une baisse de la facture d'électricité liée à la baisse des prix sur les marchés de gros de l'électricité qui sont, par rapport à 2022, évidemment, c'était la crise énergétique, on s'en souvient, sont évidemment en baisse. Donc c'est une baisse par rapport à un niveau qui est quand même beaucoup monté juste après la fin du bouclier tarifaire, donc qui était l'année dernière. La baisse de 30 à 40%, non mais moi j'aimerais bien débattre sérieusement de ce sujet, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'explication. Le programme énergétique du Rassemblement National n'existe pas. Alors ils nous disent le paradis énergétique, donc ça, c'est vrai que c'est hyper vendeur, on a tous envie d'être au paradis.
Bah oui.
Mais le problème c'est que...
Il y a des pistes, Mathieu.
Le problème... Ah, y a, moi, j'ai pas vu de piste chiffrée. Non, il y a aucun chiffre.
On sait très bien où ils vont les gratter, les
40%. Non, mais.
Alors, c'est où? C'est la TVA? C'est quoi?
Il y a que ça.
Bah, par exemple.
Donc, on retombe sur le sujet dont on parlait il y a 5 minutes, à savoir le sujet du budget 2025. Effectivement, vous pouvez, demain, avoir une baisse plus importante de la facture d'électricité en supprimant toutes les taxes, puisque les taxes pèsent, en gros, un tiers de votre facture. C'est comme cela que le gouvernement avait imposé le bouclier tarifaire en rasant toutes les taxes sur la facture d'électricité en 2022. Donc on peut le faire, mais ensuite c'est le budget de l'État qui le porte. Et on retombe sur le sujet du budget, de la dette et de l'OAT. Pourquoi pas?
Mais est-ce que ça veut dire...
Même,
allez-y,
Bruno Le Maire, d'abord il est quand même... C'est prestidigitationnesque, son truc. D'abord 15%, est-ce qu'il a pris soin de préciser 15% par rapport à quand, par rapport à quoi? Jamais. Il a dit la facture va baisser de 15%.
Moi, j'imagine que c'est par rapport à aujourd'hui.
Par rapport à aujourd'hui, moi je veux bien. Sauf que n'oubliez pas quand même qu'effectivement, dans les tuyaux, il y a eu d'abord la hausse de février qui visait, parce que n'oubliez pas qu'on est quand même aussi dans une période où on cherche à revenir finalement à la normale entre guillemets sur tout ce qui était les tarifs, les taxes, etc.
Mais ça va augmenter en août.
Exactement. On avait eu janvier où on était passé déjà de 1 euro à 20 et quelques sur mais c'est quand même pas rien, ça fait 10% de hausse de la facture. En août ça va augmenter et qu'en février 2025, c'est pour ça que je trouve que la référence de 2025 elle est quand même un peu folle. En février 2025, on termine finalement de remettre à niveau la taxe à 32 euros par mégawattheure et donc ça va faire encore 5%. Donc aller chercher 15%, effectivement, là où Mathieu a raison, c'est que ça ne peut venir que de la baisse des prix de marché. Et d'ailleurs, l'argument de Bruno Le Maire, c'était de dire retour du nucléaire, solaire, qui sont des arguments de marché, typiquement, d'offre et de demande. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous êtes sur le prix du mégawattheure, vous êtes autour de 50 euros le mégawattheure, c'est deux fois moins, effectivement, que ce qu'on avait il y a 6 mois. Donc, c'est là qu'il va la chercher.
Pour ça, il nous faut beaucoup d'électricité à produire. Ouais. Or,
ça y est, on en a, je veux dire, EDF engrange des fortunes en ce moment.
EDF a fait 10 milliards de bénéfices.
Mais tous les réacteurs remarchent.
Mais incroyable.
Oui, tous les réacteurs remarchent, mais on ne produit pas énormément non plus. C'est parce que EDF profitait l'année dernière d'une hausse des prix. Mais pour revenir au programme du Rassemblement National, enfin moi je voudrais dire quelque chose parce que je regarde ça évidemment de près.
Et vous êtes sûr qu'il faut le regarder parce qu'il est tellement inapplicable l'énergie.
Mais moi j'aimerais bien le regarder.
N'allez pas zigouiller les éoliennes et faire un moratoire sur le solaire.
Mais moi j'aimerais bien.
On n'est pas sérieux là.
Moi j'aimerais bien le regarder. Je l'ai pas le programme du RN dans l'énergie. Alors j'écoute évidemment ce que dit Jordan Bardella, j'écoute ce que dit Marine Le Pen. Donc Jordan Bardella, il me vend un paradis énergétique avec du nucléaire. Très bien, alors je regarde, on a 56 réacteurs en France, 75% d'électricité nucléaire. Donc je crois qu'on l'a déjà, son paradis énergétique entre guillemets. Et après j'écoute Marine Le Pen qui dit qu'il faut arrêter les éoliennes. Bon, on va dire qu'on les démontrera pas quand même parce qu'on n'est pas totalement... Oui, elle le dit un peu. Bon, ça dépend aussi si c'est au bord de la mer ou pas, si c'est à la Trinité-sur-Mer, peut-être ou à Fécamp. Mais la réalité c'est que Jordan Bardella, je l'écoutais il y a 2 jours, il disait les panneaux solaires c'est catastrophique, on n'achète que des panneaux solaires chinois, c'est scandaleux, la France...
On a déjà réglé ce problème, non?
Mais il faut quand même relancer les panneaux, une filière française. Donc il faut relancer une filière française qui s'est cassée la figure et il faut arrêter l'éolien, voire démonter les éoliennes, alors qu'il y a, elle est pas très florissante, mais on a une filière éolienne, notamment pour l'éolien en mer, en France, avec des usines à Cherbourg, à Saint-Nazaire et au Havre, qui sont d'anciennes usines Alstom et Areva. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'énergie, vous pouvez pas changer d'avis tous les 6 mois. On l'a vu, Emmanuel Macron l'a fait entre 2017 et 2022. Ça lui a coûté cher sur le plan de sa politique énergétique. Les EPR qui sont lancés en ce moment, il y en a 6 d'ici 2040 et il y en aura sûrement 14 d'ici 2050. On est déjà au taquet.
Ok, non, donc Mathieu, c'est pour ça que faut pas relativiser. Faut relativiser, faut regarder.
De toute façon, ça peut.
Non, mais donc faut pas regarder les programmes.
Non, mais faut regarder les grandes lignes des programmes. Et la bonne nouvelle, c'est quand même. Attends, moi, j'aurais été plus inquiet d'un.
On ne peut pas se passer d'énergie renouvelable, qu'on soit pour ou contre.
Oui, mais sauf que dans la hiérarchie, Mathieu.
On ne peut pas.
C'est quand même moins inquiétant d'avoir un parti qui te dit qu'il va mettre le paquet sur le nucléaire.
Mais on met déjà le paquet.
Qu'un régime qui te dit. Non. Qu'un gouvernement qui te dit, on arrête le nucléaire. Et on passe au renouvelable.
Mais qui dit qu'on arrête le nucléaire aujourd'hui, Emmanuel? Personne. Ça, non, mais ça, c'est une tarte à la crème.
Disons que t'avais plus ou moins pro-nucléaire.
Non,
je suis désolé.
Depuis la crise énergétique, d'accord, et depuis le Covid en réalité, plus personne ne les a.
Même les écoles.
Yannick Jadot, il est plus anti-nucléaire.
Hein. Non, mais.
Il a beaucoup changé, il faut qu'il revienne.
Mais non, mais ce n'est plus vrai. Vous les entendez des écolos depuis 2-3 ans dire qu'il ne faut plus faire de nucléaire?
Marine Tondelier, elle ne te dit pas qu'il faut faire plus de nucléaire, je suis désolé.
Mais Marine Tondelier, elle fait
5%.
Non, elle
dit qu'à terme, il faudra le.
On parle des écolos.
Attendez. On ne va pas refaire le programme de la Terre.
On fait le programme énergétique du RN. Ils veulent beaucoup de nucléaire. On en a déjà beaucoup, donc c'est très bien.
Et ils feront rien sur les renouvelables.
La folie du programme du RN, c'est de stopper l'essor des renouvelables. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà la France, pas l'Europe, extrêmement en retard sur les énergies renouvelables. C'est indispensable.
La question qu'on se pose quand même, c'est de savoir si ça a un intérêt de regarder les programmes ou pas, sachant qu'après, ils en feront en propre.
Et là où on
sur la retraite, on est déjà revenu.
Il faut, mais il n'y a pas de chiffres.
C'est surtout le problème des prix,
Mathieu. Si on ne fait pas assez d'énergie renouvelable, il faudra conserver encore beaucoup de gaz. Et on retombe sur la dépendance de l'Europe, moins la France de l'Europe, au gaz,
Emmanuel,
notamment au gaz russe, au gaz des Qataris,
alors rien du
etc.
tout. Merci
François,
à tous les trois.
Désolé. Hein.
Mais François, il vous écoutait, il était comme moi.
Subjugué.
Mais bien sûr, par la qualité de tous ses propos. Merci à tous les trois d'être venus.
Alors, je les prends les secondes.
Non,
non, mais parce qu'il faut pas. Il faut regarder aussi le coût du futur nucléaire et le coût
des renouvelables.
Des futurs renouvelables.
Il n'y a pas de chiffre.
On ne peut pas se passer des renouvelables, c'est évident.